Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Boa como Milo.
Bienvenue dans cette nouvelle saison de la série La Clé des Champs. La série pour se nourrir de la magie du vivant face à des climats de plus en plus extrêmes. De l'autre côté de la planète, ou à l'autre bout de la rue, l'humain observe et s'essaye à faire germer les graines. À chaque épisode, nous découvrons ensemble comment sont cultivées les terres de notre belle bleue. Aujourd'hui, nous accrochons nos oreilles sur les ondes brésiliennes pour y rencontrer ses habitants à pattes, à tiges et à jambes, avant de bifurquer dans les champs pour choper quelques trucs et astuces de culture sous ce climat. En bonus, à la fin de cet épisode, je vous propose une recette en sortie de champ pour que nos papilles palpitent autant que nos oreilles. Quittons la civilisation, laissons de côté les klaxons qui hurlent et les émanations en tout genre. Oublions le fourmillement de Rio et de Sao Paulo, qui concentrent sur une si faible portion du territoire la majorité de la population humaine du pays. L'heure est venue de remonter, à la recherche de ceux qui permettent au Brésil d'être le pays avec la plus riche diversité de vertébrés et d'invertébrés. Nous voici arrivés au parc naturel du Pantanal. Le reflet du monde se balance à chaque entrelacement de chemin. Une hippomée blanche avoisine avec un papyrus géant et une pontédérie à feuilles en cœur. Chut. Si nous prenons garde, nous aurons peut-être l'honneur de croiser ce félin fascinant aux couleurs de braise. Oui, c'est bien toi, jaguar du Pantanal, que nous voudrions voir sortir de la dense végétation. Ce sera pour une prochaine fois. Il sera peut-être suivi de près par le puma, le loup à crinière, le tapir, le tamanoir, noir, le singe hurleur, le paresseux, le cerf du Pantanal ou le renard des savanes, qui sait. À chaque pas, nous pénétrons un peu plus dans le miroir, dont la limite est délicatement posée par les nénuphars géants qui s'ouvrent à la surface de l'eau. Cette région du Mato Grosso est la zone marécageuse qui jouxte d'un côté l'enfer vert, dit l'Amazonie, et de l'autre les terres desséchées, mais non moins exceptionnelles, du nord-est. Perché sur le mont du Pantanal, nous bifurquons vers l'Amazonie. Considérée comme le poumon du monde au même titre que le phytoplancton des océans, la forêt amazonienne revêt une importance capitale pour l'équilibre de la planète. Elle produit à elle seule 15% de l'eau douce disponible sur Terre. Sa déforestation massive pousse une partie de ce patrimoine biologique et culturel vers les portes du désert. Pour autant, quelques zones préservées subsistent et il nous faudra beaucoup de courage pour s'engouffrer dans cet amas de grands arbres fourrés et lianes endiablées. Nous risquons de croiser de bien curieux individus à la taille démesurée. Parmi eux, le capybara, le plus grand rongeur existant au monde, ou la plus grande araignée, la mygale goliath, également appelée mygale mangeuse d'oiseaux. Le voyage sera trop court pour voir la grande diversité du vivant sur ces terres. Il nous faudra revenir pour découvrir les plantes carnivores du mont Roraima, qui abritent de nombreuses espèces ayant évolué pour digérer les insectes en raison du sol oligotrophe avec un faible niveau de nutriments. Un arrêt de plus pour les derniers représentants Pernambouc, également connus sous les noms de bois Brésil ou peau Brésil, dont l'exploitation forestière excessive l'a poussé vers l'extinction. Dans le sud du Brésil, du côté de Sao Paulo et Rio, l'été austral s'étend de décembre à mars. Il fait en moyenne 30 degrés. L'atmosphère est humide et les pluies sont fréquentes. Durant l'hiver austral, de juin à septembre, les pluies sont limitées, la température plus fraîche varie de 22 degrés en journée à 18 degrés en moyenne la nuit. Le climat de la région de l'Amazonie n'a rien à y voir. Il se caractérise par un taux d'humidité important qui peut atteindre les 100% en pleine forêt. La saison sèche, de juillet à décembre, est celle où il y aura le moins de pluie, avec une température moyenne de 26 degrés. L'agriculture paysanne au Brésil ne représente que très peu pour l'économie du pays, comparée à l'industrie agroalimentaire avec 40% des productions exportées. Certaines cultures commerciales telles que le soja ou la canne à sucre, utilisées pour l'éthanol, sont en plein essor, en particulier depuis la modernisation de l'agriculture lancée dans les années 80, lors de la transition démocratique. Canne à sucre, soja, sont les principales grosses productions avec le café, l'orange, la papaye, le maïs, le tabac, l'ananas ou encore le coton et le manioc, aliments de base pour de nombreuses spécialités du pays. Le Brésil est aussi le premier exportateur de viande bovine et produit également en masse un élevage de volailles et de porcs. Cultivé en tant que petit paysan brésilien sur ces terres prisées des grandes industries est ardu et demande une nouvelle organisation sociétale. Êtes-vous prêt pour notre truc et astuce de culture sous ce climat? Le mouvement des sans-terres, MST, désigne une organisation paysanne brésilienne militante qui œuvre pour une répartition plus équitable des terres. Sur les 70 millions d'hectares cultivés au Brésil, près de 40 millions d'hectares sont détenus par un petit nombre de grands propriétaires terriens, environ 300, quand des millions de familles n'ont pas les moyens de posséder un lopin de terre. Les sans-terres militent donc pour que les paysans ne possédant pas de terre disposent de terrains pour pouvoir cultiver. Le mouvement des sans-terres n'est pas juste un mouvement agricole. Son organisation autogérée, ses idéaux collectivistes et populaires ont séduit bon nombre d'exclus ruraux, mais aussi d'habitants des favelas. La réelle concentration foncière légitime les revendications du mouvement aux yeux d'une partie de la société. Depuis l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro en 2019, le mouvement fait l'objet d'attaques répétées et les sans-terres sont considérés par le gouvernement comme des terroristes. Ils sont en effet nombreux à faire l'objet d'expulsions forcées, le gouvernement soutenant largement le secteur de l'agro-industrie, l'agro-business et les grands propriétaires terriens. Le principal mode d'action du MST consiste à occuper des terres jugées improductives ou leurs environs, souvent des terres publiques en bordure de route, en y installant des acampamentos, campements sauvages réunissant quelques dizaines à quelques centaines d'individus, reconnaissables aux bâches de plastique noir qui recouvrent les tentes. Ces acampamentos sont destinés à entretenir une pression sur les propriétaires terriens et les pouvoirs publics afin d'obtenir des lots de terres sur lesquels ils pourront installer des assentamentos. Avec près de 2 millions de membres, le MST est le plus grand mouvement sociopolitique d'Amérique latine et l'un des plus grands mouvements paysans du monde. Depuis sa création il y a 40 ans, en 1984, le MST n'a cessé de croître grâce à son approche unique. Le MST a trois objectifs. Se battre pour la terre, lutter pour la réforme agraire et transformer la société. Ils ont obtenu la législation de la propriété de la terre, où ils ont construit 1900 associations paysannes, 185 coopératives et 120 sites agro-industriels appartenant au MST. Tandis que 65 000 familles vivent dans des acampamentos et luttent pour leur reconnaissance légale. Ce sont ces structures qui produisent des biens envoyés en Palestine pour soutenir la population. Plus de 13 000 tonnes de nourriture. Cette force est le fruit de la large base du MST et de ses méthodes d'organisation. L'idée que les assentados, habitants des installations, doivent toujours être en mouvement, c'est-à-dire en constante évolution. Cela est régi par 7 principes qui permettent au MST de stimuler ce mouvement. Son autonomie vis-à-vis des partis politiques et des églises, des gouvernements et autres institutions pour laquelle l'unité organisationnelle est essentielle. La formation des organisateurs pour assurer à la fois leur participation à la construction de l'organisation et leur discipline face aux décisions de la direction collective. L'importance des études, enfin la nécessité de l'internationalisme. Autrement dit, ils cherchent à changer la nature même du capitalisme et à construire un modèle d'agroécologie qui développe une forme d'agriculture équilibrée et durable, une agriculture qui valorise la nature plutôt que la dégrader, et qui produit une alimentation saine pour la société dans son ensemble. L'histoire du Brésil est ancrée dans ce principe d'évolution à la confluence des mondes. À leur arrivée sur les côtes brésiliennes au XVIe siècle, les navigateurs européens découvrent un territoire peuplé par 8 millions d'individus environ, regroupés dans des villes et villages pour former une civilisation qui fascine les premiers explorateurs. La colonisation par les pays occidentaux se fait progressivement. D'abord concentrée autour des ports et des zones littorales, elle s'intensifie avec la mise en place du commerce triangulaire et la découverte d'or au cœur des forêts. Les esclaves africains constituent bien malgré eux la troisième grande composante démographique du Brésil. En raison de la pénurie de main-d'œuvre indigène, puis de l'interdiction de la réduction en esclavage des Indiens, une traite négrière massive débute au milieu du XVIe siècle, et ainsi, le Brésil devient la principale destination des esclaves africains dans les Amériques, recevant environ 5 millions de personnes arrachées à leur terre natale. Le métissage culturel a permis la rencontre de populations très diverses, apportant chacune leur spécificité à ce qui deviendra la musique brésilienne, chants et flûtes indiens, percussions africaines, instruments et mélodies européennes. La musique brésilienne tend ainsi à accomplir un métissage réel et à célébrer la communion de différents peuples. C'est ce à quoi appelle Clara Nunes, dans une célèbre samba, Canto das Três Raças, le chant des trois races.
Canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Acho que é bonito.
Le métissage de la société se trouve aussi dans la cuisine du Brésil, avec la mise en commun d'ingrédients et de techniques appartenant aux différents groupes ethniques. À l'origine, la feijoada était un plat d'esclaves qui cuisinait les morceaux de porc les moins nobles avec des haricots noirs, feijos, en portugais. Ce plat consistant, proche du cassoulet toulousain, est aujourd'hui partie intégrante de la gastronomie brésilienne.
Voici la feijoada pour deux personnes. Réunissez les ingrédients suivants. 200 g de haricots noirs, une saucisse fumée, une morteau par exemple, 50 g de travers de porc salé et 50 g de poitrine de porc fumée, un oignon jaune, deux gousses d'ail, un bouquet garni, une feuille de laurier, du poivre et du sel, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 20 g de beurre demi-sel, 100 g de riz blanc et une orange à jus. Passons à la préparation. La veille du fabuleux festin, pensez à laisser tremper vos haricots noirs dans de l'eau froide et à dessaler la viande de porc en la laissant tremper durant 12 heures en changeant régulièrement l'eau. Après avoir laissé ces ingrédients se pavaner dans leur jus, veillez à bien égoutter en secouant avec vigueur les haricots et la viande. Déposez ardemment le tout dans un faitout. Il vous faudra dès lors ajouter 1 litre d'eau ainsi que le bouquet garni et la feuille de laurier entière. Durant une heure, vous vous délecterez du fumet produit par cette cuisson à feu doux. Retirez dès lors la viande et continuez d'attendrir vos haricots en rajoutant un demi-litre d'eau. Pendant ce temps, c'est votre riz que vous ferez cuire à l'eau, tandis que d'une autre main experte, vous ferez frire l'ail et l'oignon à la poêle. Ça y est, on y vient. La feijoada sera bientôt prête à se faire dévorer. Pour finir, il vous suffira de remettre en contact viande, haricots et succulents ail et oignons frits. Voilà que la dégustation approche à grande enjambée. Armez-vous du plat le plus coloré et déposez feijoada et riz avant de coiffer le tout de quelques fines tranches d'orange et d'une ou deux feuilles de persil plat. Notez que les rondelles ne vous retiendront plus pour très longtemps et sans attendre que vous engloutirez la moindre portion de cette gourmande feijoada.
Tu as pêché où, baobab d'acajou ? Cette escale prend fin. La semaine prochaine, le vivant réclame notre attention sur de nouvelles feuilles de choux fraîchement cueillies.
Cyprès, pin des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.